Amen. Loué soit le Seigneur. Avant d'entrer directement dans le message 2, ce serait bien d'avoir une révision de ce que nous avons couvert hier. Déclarons le sujet principal tout ensemble, avec un esprit libéré. Gagner Christ dans son excellence pour l'édification du corps de Christ universellement. Encore une fois. Gagner Christ dans son excellence pour l'édification du corps de Christ universellement. Message 1 était un aperçu de ce sujet général. Je peux le résumer en 4 points principaux. Premièrement, le point Romains 1 qui parle du règne dans les cieux, la domination des cieux. Surtout maintenant, toute la situation dans le monde est en désordre. Peu importe en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie, on retrouve des mauvaises nouvelles partout. Mais si on regarde simplement les nouvelles à la télévision, nous allons nous ennuyer. Mais quand on tourne vers notre esprit et quand on considère les prophéties dans Daniel, nous allons réaliser que les cieux dominent. Comme le point Romains 1, ça dit « Toute la situation mondiale est sous la domination des cieux, par le Dieu des cieux, afin de correspondre à son économie pour Christ. » Et l'état des choses dans la situation mondiale sert à une chose, le recouvrement du Seigneur. Quelle sera notre réponse? C'est de poursuivre et gagner Christ. Nous vivons et magnifions Christ afin d'édifier le corps de Christ. Le fardeau, c'est poursuivre et gagner. Mais comment gagner? Si, avec notre main, si nos mains sont pleines, on ne peut plus tenir d'autres choses. Si je tiens deux bouteilles d'eau, déjà, est-ce que je peux prendre plus de choses? Mais afin de tenir plus, de gagner plus, il faut que que mes mains soient libres. Donc, il faut lâcher des choses avant de prendre plus de choses. Donc, il faut être disposé à renoncer au monde attirant, séduisant et embrouillant, afin de gagner Christ. Donc, le point Romains 3 mentionne deux personnes dans la Bible, Moïse dans l'Ancien Testament et Paul dans le Nouveau Testament. J'apprécie Moïse parce que une des raisons, c'est que mon fils s'appelle Moïse. Mais dans Hébreu, Moïse a été adopté par la princesse de Pharaon. D'un côté, Moïse n'a pas simplement profité des richesses de la princesse de Pharaon. Mais il a considéré le reproche de Christ. Donc il a regardé à la récompense. Donc, frères et sœurs, est-ce que nous avons considéré et compté, faire un compte, de régler les choses, qu'est-ce qui sont profitables à nous, les choses mondaines, des choses séduisant, attirant, ou est-ce que nous mettons de la valeur sur Christ? Pour devenir le vrai trésor, que nous valorisons Christ tellement que nous pouvons compter tout comme la boue, juste comme Paul. Lisons Romains 3c. Vous êtes debout au bord d'une falaise. D'un côté est Christ et de l'autre côté est le monde. Vous pouvez marcher sur le côté du monde et tomber, ou vous pouvez marcher sur le côté de Christ et être élevé. Aujourd'hui, j'ai un fardeau pour sauver votre vie. C'est une décision du dernier moment. Vous ne devez pas faire le mauvais choix. Donc, il faut régler que c'est une décision sérieuse. Et en prenant cette décision, nous avons une consécration fraîche envers le Seigneur. Cette consécration va nous mener d'avoir la pleine jouissance de Christ et pour le gagner. Mais il y a deux exigences pour cette consécration. Premièrement, dans Romains 4, ça doit être fraîche. D'autres mots, il faut que nous consacrons tous les jours, chaque matin. Il faut que nous consacrions nous-mêmes au Seigneur. Pas pour des choses, mais simplement de jouir de lui et de l'expérimenter. Chaque jour, nous passons du temps secret et de manière privée. Et aussi, nous sommes actualisés dans le déplacement actualisé. Une façon concrète, c'est de nous consacrer, d'entrer dans le ministère de l'âge, de passer du temps de lire la Sainte Bible, de passer du temps vraiment de creuser dans le ministère. Et en jouissant et creusant la Bible et le ministère, nous sommes constitués avec Dieu. Donc ça, c'est un aperçu rapide du message 1. Mais avec la consécration, l'application principale, c'est qu'il faut avoir une vie de prière qui nous amène au deuxième message. Lisons le titre du message 2 ensemble. L'édification de la maison de Dieu. Le groupe qui prie. En parlant du groupe de prière, il faut parler de deux points principaux. Premièrement, il faut avoir une vie de prière. Il faut être un homme de prière. Mais ça part de groupe, donc ce n'est pas simplement de prier seul, mais de prier en groupe. Donc, prier en groupe, c'est le fardeau principal de ce message. Mais avant de parler de groupe, parlons tout d'abord de nous, comme individus. Tournons au plan, lisons le point Romains 1 ensemble. En tant que l'apôtre, envoyé par Dieu, et des dieux envers nous, de Dieu envers nous. Christ construit la maison de Dieu. Il est le constructeur de la maison, et nous sommes la maison. Cela signifie qu'il nous construit ensemble en tant que la maison de Dieu. Il est le constructeur universel, le constructeur unique dans l'univers. Ce point romain, ce n'est pas simplement pour le message 2, mais ça place un fondement pour tous les autres messages. Il parle qu'il faut gagner Christ pour son corps, pour son édifice. Donc, qui est le constructeur? Et la réponse est Christ. C'est Christ qui est l'unique constructeur et qui nous édifie ensemble pour l'édifice de Dieu. Selon cette formation, pour l'édifice, il y a quelques points importants. Donc, ce message commence par la prière. Et après, ça part de la prédication de l'Évangile et les soins pastoraux, et ainsi de suite. Vous pouvez penser que la prière, c'est le niveau zéro de l'édifice. Si nous n'avons pas une vie de prière, nous ne pouvons pas sortir pour prêcher l'Évangile. Nous n'aurons pas l'énergie, nous n'allons pas pouvoir soutenir une vie de prédication de l'Évangile et de soutenir une vie de prendre soin des autres. Et nous ne pouvons pas soutenir une vie de coordination, de servir avec les frères Donc, une vie de prière est quelque chose de fondamental pour nous. Et dans ma vie de l'Église personnelle, j'ai vu que j'ai vu que les saints plus aînés, surtout les sœurs, sont un très bon modèle pour nous. Je crois fermement que si on n'a pas les prières de ces saints dans les petits groupes, nous n'allons pas avoir un recouvrement du Seigneur comme on l'a. Mais je me demande cette question et je demande à tous mes collaborateurs, est-ce que nous avons une vie de prière? Nous voyons des modèles, mais est-ce que nous suivons ces modèles? Donc, maintenant on parle de nous. Est-ce que nous sommes une telle personne de prière? Donc, en considérant la prière, souvent nous pensons seulement aux techniques. C'est sûr que des techniques et des méthodes sont utiles, mais si nous ne sommes pas la personne adéquate, les techniques sont inutiles, sont vaines. Prenons un exemple extrême. Aux États-Unis, avoir un fusil, c'est juste, c'est légal. Donc, si tu as toutes les techniques pour utiliser le fusil, par exemple, tu es un policier, et s'il y a un criminel, donc l'utilisation du fusil, c'est à deux extrêmes. Donc, c'est vraiment un exemple extrême. Mais je pense que vous comprenez mon fardeau et mon point. Donc, quand on parle, si nous sommes une personne adéquate, nous avons une vie de prière, alors quand nous parlons de toutes les techniques, toutes ces techniques seront utiles. Maintenant, nous pouvons lire le point Romains 2 ensemble. Pour que Christ se répande universellement en tant que le véritable cep, nous devons avoir des prières efficaces pour porter du fruit. La prière est l'homme qui coopère et co-travaille de concert avec Dieu, permettant à Dieu de s'exprimer à travers l'homme et d'accomplir ainsi son dessein. Donc, ce point romain, quand je vois prière efficace, tout de suite je pense aux techniques. Plus tard, je vois que ça ne parle pas des techniques, ça parle de la personne. Ça dit que la prière, c'est l'homme qui coopère et co-travaille de concert avec Dieu, permettant à Dieu de s'exprimer à travers l'homme et d'accomplir ainsi son dessein. Donc, ça parle de la personne. Un exemple, c'est Jacques 5, 17, qui parle de Élie. Élie priait fermement, et cette traduction peut aussi être interprétée en groupe, prier en groupe. Donc, la note nous aide de voir que Élie ne pria pas simplement dans ses pensées, mais que Christ répand de sa pensée à toute son âme pour que Dieu s'exprime à travers nous. Donc, Élie pria selon le sentiment de Dieu. Donc, comment est-ce que nous devenons une telle personne? Lisons le point 1A. A et 1, 2 ensemble. Nous devons prier en le nom du Seigneur. Ceci est le résultat du fait que nous demeurons dans le Seigneur et que ses paroles demeurent en nous. Lorsque nous demeurons dans le Seigneur et permettons que ses paroles demeurent en nous, nous sommes en fait un avec lui et il travaille au-dedans de nous. Et il aura un désir en nous qui ressort de ses paroles et son désir deviendra notre désir. Donc, il faut être un esprit avec lui et de vivre dans un tel esprit mélangé. Donc, point Romains 2, parle de la personne. Donc, le fardeau de ce message est sur les groupes de prière. Donc, on a des groupes de frères et sœurs qui prient ensemble. Donc, comment est-ce qu'on prie ensemble? Lisons le point 3 ensemble. Dans Matthieu 18-19, le Seigneur nous a chargés de nous accorder lorsque deux d'entre nous prient ensemble pour quelque chose. Donc, vous pouvez penser que c'est simple. Nous allons nous réunir en deux et en trois et prier ensemble. Mais le point ici, c'est en harmonie. Le problème, c'est pas qu'on se rassemble en deux et en trois. Le problème entre nous, c'est qu'il nous manque l'harmonie adéquate. Parce que si nous ne sommes pas en harmonie, en commun accord, aux yeux de Dieu, ce n'est pas beau. Donc, le mot grec « symphoneo » signifie « être en harmonie ou en accord » et fait référence au son harmonieux des instruments ou des voix de musique. Dans un orchestre, il n'y a aucun instrument qui va jouer particulièrement plus fort et de ne pas suivre les instructions. C'est pas que moi je suis un instrument et je dois tout jouer dans la pièce de musique. Chaque personne a une portion particulière. Mais quand on est tout ensemble, tous les instruments jouent ensemble et la fonction ou la partie de chaque instrument, quand ils jouent ensemble, c'est une harmonie merveilleuse. Donc, ce que nous disons, c'est pas que nous devons faire les mêmes choses extérieurement, mais quand nous prions, nous prions toutes dans notre esprit mélangé et nous touchons le même Christ. Et ainsi, peu importe ce que nous prions, si nous sommes en harmonie, le Seigneur va répondre à nos prières parce que nous sommes en harmonie et nous sommes en commun accord. Donc, comment le faire? La clé, c'est les groupes vitaux. Donc là, je vais passer la parole au frère Aaron pour parler des qu'est-ce que ça veut dire des groupes de prière et les groupes vitaux. Donc, je crois que le fardeau pour ce matin, c'est pas simplement de prier. Parce qu'en tant que chrétien, nous savons que cette question de prière est très importante. Mais le problème, c'est que nous ne prions pas. Donc, nous savons, mais nous ne pratiquons pas. Donc, nous regardons au Seigneur d'avoir dans cette communion que nous avons une fraîche vision, d'avoir une fraîche vision, et que cette vision fraîche puisse gouverner notre vie et contrôler notre vie. De voir que si nous n'avons pas une vie de prière, nous avons le Dieu n'a aucun moyen. Nous allons voir deux portions dans la Bible. D'abord, dans Jean 15. Quand nous parlons de prière, j'espère qu'on ait une image en nous. Qu'est-ce que notre Dieu, notre Père fait justement? Notre Père est un jardinier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Le Père est en train de planter une vigne ou un cep universel dans le chemin éternel. Il est en train de nous choisir et de nous prédestiner. Dans le temps, il arrange toutes sortes de choses pour nous prédestiner. Peut-être qu'à travers quelqu'un, nous sommes sauvés par la prédication de l'Évangile. Quelqu'un nous a sauvés. Mais est-ce que nous réalisons qu'il nous met dans un cep universel? À partir du moment qu'on est sauvé, nous ne sommes pas sauvés individuellement. Mais nous sommes greffés dans ce cep universel. Qui est ce cep? Ce cep, c'est Christ lui-même. Avant, nous étions en Adam. Nous étions sans espoir. Mais à partir du moment que nous sommes sauvés, nous sommes greffés dans cette vigne, ce cep universel. Ce soit le but de grandir, de planter ce cep, c'est que dans le temps et dans l'espace, que ce cep grandisse. Il a un espoir, il veut que ce cep porte beaucoup, beaucoup de fruits. Que dans Jean 15, 8, que vous portiez, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez ainsi mes disciples. Et en tant que tel, vous allez devenir mes disciples. Donc, considérez-vous comme des fermiers et que vous plantez des cèpes, mais il n'y a aucun fruit. En tant que jardinier, est-ce qu'il y a une gloire? Mais le Père nous plante et prépare toutes les richesses d'infuser en nous. Il prend soin de tous nos besoins. Mais c'est quoi son but? Il désire ce cep universel d'avoir beaucoup, beaucoup de fruits. Et ainsi, mon Père est glorifié. Est-ce que nous portions du fruit? Est-ce que nous portons du fruit? Parce qu'il y a c'est relié à la gloire, à sa gloire. Et vous serez ainsi mes disciples. Cette phrase est pleine de signification. Quand nous parlons de porter du fruit, c'est une question de vie. C'est que en mangeant et en buvant le Seigneur, je vais porter du fruit. D'un côté, l'aspect individuel est vrai, est juste. Mais ici, ça dit, et vous serez ainsi mes disciples. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple? Un disciple, c'est un apprenti. Ça veut dire qu'il faut apprendre. Ça veut dire qu'il faut être perfectionné. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de chrétiens, mais combien d'entre eux portent vraiment du fruit? D'un côté, il y a un problème que nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas ces richesses. Mais d'un autre côté, on n'a pas été perfectionné. Cher Seigneur, il faut relâcher nos concepts naturels. Si nous décidons vraiment de porter beaucoup de fruits, et que nous voulons vraiment être ses disciples, il faut avoir une prière. « Oh Seigneur, je veux être perfectionné. » Quelle est la leçon fondamentale? Lisons. Lisons Jean 15, 4 et 5. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas par lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans le cep, de même vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Disons-le ensemble, en anglais et en français. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas par lui-même porter de fruits. S'il ne demeure dans le cep, de même vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. En chinois. Verset 5 en français. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, ça dit, si on veut être perfectionné, Tout d'abord, il faut apprendre que il faut apprendre de demeurer en lui. Pendant beaucoup d'années, nous savons ces choses. Mais est-ce que nous demeurons vraiment en lui? Il faut prier au Seigneur de vraiment entrer dans cette réalité. Il faut d'abord considérer comment est-ce que nous vivons. Il faut réaliser que d'abord que nous sommes toutes greffées dans le cep universel. À partir du moment qu'on est sauvé, on a été greffé. Personne ne peut nous séparer de Christ. Mais dans notre vie pratique, comment pratiquer ces choses? Il faut réaliser que cette question de greffer, se passe dans notre esprit. À partir du moment qu'on est sauvé, il y a été quelque chose qui a été greffé dans notre esprit. Quand nous tournons dans notre esprit, quand nous exerçons notre esprit, quand nous suivons notre esprit, nous vivons dans la réalité de ce greffage. Quand on parle de demeurer en lui, on parle d'exercer et demeurer dans notre esprit et d'apprendre à suivre notre esprit. Donc ça dit, si vous demeurez en moi, je vais demeurer en toi. Et vous allez porter beaucoup de fruits. Donc, la question de lui qui demeure en nous, c'est une question de nous à demeurer en lui. Par rapport à l'homme et Dieu, de la cohérence de l'homme et Dieu, Dieu nous donne la décision si on va faire ou non. Si nous ne choisissons pas de demeurer en lui, le Seigneur n'a aucun moyen. Donc quand je lis cela, j'ai une confession en moi, parce que le Seigneur vraiment nous attend que nous demeurons activement en lui. Il nous attend d'exercer hardiment notre esprit. Donc, le but de cela, c'est de porter du fruit. Sœurs et frères, est-ce que vous voyez cela? J'espère vraiment dans l'après-midi que nous pouvons vraiment entrer dans cette question, dans cette pratique. Demeurer en lui, si vous demandez comment vraiment demeurer en lui, et que même comment vivre une vie normale, si par exemple, moi, je ne n'ai pas mangé ce matin, si je mange pas le déjeuner, ça serait très difficile de vivre comme un être humain. Si j'ai juste un repas par jour, par exemple le matin, rendu à l'après-midi, on sera pas vraiment comme un homme, parce que notre niveau d'énergie est très bas. Si tu manges juste un repas rendu le soir, je pense que tu auras juste de l'énergie pour se mettre au lit. Dans notre vie chrétienne, si on n'a pas une vie de vraiment jouir du Seigneur, qui est une vie de tourner au Seigneur continuellement, que ça soit une gouvernance habituelle dans notre vie, si nous ne faisons pas ces choses, on peut pas penser que nous allons qu'il lui va habiter en nous, qu'il va demeurer en nous. Dans cette portion, il faut vraiment considérer c'est quoi vraiment demeurer en lui. Au verset 7, ça dit, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous m'en demandez tout ce que vous voudrez et cela sera fait pour vous. » Si ce jour, ce jour-là, si vous exercez votre esprit continuellement, vous allez avoir sa parole. Vous allez réaliser que la parole demeure en toi. Les frères ont mis beaucoup d'accent sur la lecture de la Bible chaque matin. Moi, je suis diligent à lire la Bible. Chaque matin, je me lève à 5h30 et je mange un grand repas. Mais je me rends compte que rendu à 10h30 et 11h, je suis souvent pas dans notre esprit. Et je réalise que c'est pas que je mange le matin et après c'est tout. Donc après avoir prié et lu un verset, j'écris le verset et je le mets dans ma poche. Et pendant la pause, je retire ce papier et je sors et je prie encore une fois pendant 5 minutes. Et en revenant à la maison ou en classe, j'ai la parole à moi encore. Donc, je réalise que j'ai constamment la parole de Dieu qui habite et demeure en moi. Donc, depuis que j'étais étudiant, j'ai pratiqué d'avoir la parole demeurer en moi richement. Quand j'étais étudiant, je sentais que les cours étaient très, très, très chargés. J'avais tant de travaux à faire et donc j'ai voulu mettre tout mon temps dans mes études, mais le fruit n'était pas nécessairement bon. Donc j'ai réalisé qu'avant d'étudier, que je passe un peu de temps de demeurer dans la parole. Donc, chers frères et sœurs, une vie d'habiter en lui et que lui demeure en moi, en nous, cette question peut être pratiquée. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps, mais il faut entrer continuellement, retourner au Seigneur. Que le Seigneur, que sa parole soit vraiment en toi. Beaucoup de fois, le Seigneur me condamne et le Seigneur m'encourage intérieurement. Souvent dans notre service, Le Seigneur nous donne un peu de vision parce qu'il habite vraiment moi. Donc, c'est quoi le but? Quand nous parlons de Jean 15, nous parlons de la demeure de Christ. Mais le fardeau de ce chapitre, c'est sur porter du fruit. Donc, chers frères et sœurs, si nous voulons porter du fruit, il faut pratiquer une telle vie. Et il faut lui donner l'occasion que lui il parle, nous il nous parle. Peut-être que nous avons joui d'une parole, d'un verset le matin, mais il faut que ce verset ressort, revienne et nous reparle. Et la conséquence clé, c'est que tout ce que vous demandez, que vous voudrez, et cela sera fait pour vous. Donc, dans ce plan, ça part de pour porter du fruit, pour son élargissement. Il faut que nous apprenions comment avoir des prières efficaces. Ces prières efficaces, c'est que son cœur, le désir de son cœur, soit notre désir. Que nous soyons des personnes qui s'occupent vraiment de sa multiplication, son avancement. Chers frères et sœurs, en regardant notre passé, est-ce que nous avons vraiment porté du fruit? Ou peut-être que dans notre petit groupe, on n'avance pas, on n'avance pas. Comment avancer? Et comment avancer dans nos prières? C'est d'avoir un désir pour l'avancement et la multiplication. Quand nous avons un désir que notre groupe avance et que porte du fruit, le Seigneur va vraiment demeurer avec nous. Et nous allons porter du fruit. Que le Seigneur nous donne un tel désir. Seigneur, chers frères et sœurs, il faut que nous demeurions en lui. Il faut continuellement tourner vers lui. Le matin et beaucoup de fois pendant la journée, il faut continuellement tourner à lui. On espère que dans l'après-midi, qu'on puisse pratiquer ces choses. Qu'est-ce que ça dit dans le verset 11? Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ça veut dire que son désir devient notre désir. Ça veut dire que son amour envers l'homme devient notre amour envers l'homme. Quand nous portons du fruit, quand nous portons beaucoup de fruits, la joie de Dieu devient notre joie. et notre joie sera complète. De l'autre côté, si nous ne portons pas de fruits, si nous n'avons pas de multiplication, nous allons voir que nous manquons la joie du Seigneur. Que le Seigneur nous encourage et de voir la vision du CEP. Mais la clé, c'est vraiment de prier. Dans la demeure mutuelle, de porter du fruit. La clé, c'est de prier pour sa multiplication. Lisons le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Le 17. Je vous commande ces choses, afin que vous aimiez les uns les autres. Le 12 parle de « Aimez-vous les uns les autres » et entre les deux, ça parle de « Porter beaucoup de fruits ». C'est comme dans un hamburger, au milieu des deux pains, il y a la viande. Entre les deux pains, c'est le fruit. Dans notre vie de l'Église, quand nous voyons la prière pour la multiplication et que nous demeurons en lui, ce n'est pas quelque chose d'individuel. C'est quelque chose en rapport avec le corps. Pour avoir une prière efficace, tout d'abord, il faut demeurer en lui. Et deuxièmement, il faut être en commun accord avec tes compagnons. C'est très relié à l'amour fraternel. Quand nous pratiquons cela, quand nous pratiquons une vie de porter du fruit, il faut prier. Cette vie de prière, ce n'est pas simplement individuel. Il faut avoir des compagnons. Si nous n'avons pas de prière en petit groupe, c'est très difficile de porter du fruit. Alors, l'année passée, quand les frères sont revenus de la formation, nous avons beaucoup de fardeaux pour la multiplication. Mais nous savons que nous sommes tous faibles. Je sais qu'on a vraiment besoin de compagnons. Donc j'ai appelé des frères. Est-ce qu'il y a un groupe de frères qu'on peut prier ensemble? Prenez soin de la Seigneur qu'il y avait eu des frères qui ont répondu à ce prière. Donc, chaque matin à 6h30, on était là pour prier pour la multiplication du Seigneur. Et on priait aussi pour beaucoup de besoins des frères et des sœurs. Dans le passé, nous avons tous déclaré que dans l'année prochaine, qu'on va gagner beaucoup de tant de personnes. Mais nous savons que juste en disant ça, ça compte pas pour beaucoup de choses. Mais l'année passée, on a appris qu'on ne peut pas laisser de côté cette chose. On a déclaré qu'on veut baptiser 25 personnes et d'avoir 8 comme du fruit que demeure. Et on a compté l'année passée, on a eu 20 quelques baptêmes, mais peut-être 10 fruits qui demeurent. Je peux témoigner que sans compagnons, on ne peut pas soutenir du fruit, on ne peut pas soutenir la multiplication. Donc, une loi que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aimer les uns les autres pour porter beaucoup de fruits, par la prière et la coordination avec les compagnons. On peut avoir un fardeau pour sa multiplication. Quand nous lisons Matthieu 18, que s'il y a deux ou trois ensemble, en harmonie, peu importe ce que vous demandez, je serai au milieu de vous. Qu'est-ce que ça dit dans les versets précédents? Que ça part de quelqu'un qui a offensé et qui a péché, et que quelqu'un qui a été offensé. Mais ça, le Seigneur nous charge de prier pour ce saint faible et en harmonie, de prier en harmonie. Et ça parle de lier tout ce qui est lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre aura été délié dans le ciel. En d'autres mots, dans les cieux, beaucoup de choses ont déjà été faites. Mais pour que cette chose soit administrée sur terre, il a besoin de l'homme. Il a besoin que deux ou trois personnes prient ensemble pour délier ces choses. Ça, c'est la clé pour son élargissement, sa multiplication. Donc, plus tard, ça dit que quand deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, quand vous lisez ces points, c'est une question de prier. Beaucoup de fois, nous réunissons ensemble, mais nous ne prions pas. Donc ici, dans la Bible, en réunissant, c'est la part de prier en petit groupe pour qu'ils puissent administrer. Lisons les derniers points sur le plan. Le point Romains 4. Un groupe vital pourrait venir en existence que lorsqu'un saint qui est désespéré et absolu pour l'accroissement du recouvrement du Seigneur, un tel saint désespéré contacteront spontanément les autres selon la direction du Seigneur et gagnera un compagnon ou des compagnons pour qu'il ait un groupe vital. Que nous voyons le désir du Seigneur, la faveur du Seigneur pour la multiplication. De voir que nous sommes les branches dans ce cep, que notre destinée, c'est de porter du fruit. Il faut prier pour sa multiplication. Même même que nous donnons tout pour cela. Point Romains 5. Nous devons être en harmonie avec les autres croyants et être dans un commun accord avec le corps dans la prière qui a pour issue l'établissement de l'Église. Point A. Avoir un partenaire de prière ou des partenaires peut non seulement nous aider à mieux prier, mais aussi peut nous aider à soutenir notre vie de prière. Afin de combattre sur le côté de Dieu contre Satan, nous devons persévérer dans la prière. Cette persévérance est nécessaire parce que la course du monde entier est éloignée de Dieu. Prier revient à aller contre le courant, la tendance et l'univers déchu. Point C. Les groupes vitaux ont besoin de gagner l'accroissement adéquat à travers beaucoup de prières et de travail. Point Romains 6. Nous devons tous lui faire un vœu concernant notre vie de prière. Seigneur, je suis sérieux envers toi concernant ce sujet de la prière. Je demande au ciel et la terre de témoigner que dorénavant j'aurai une vie de prière. Je ne serai pas quelqu'un qui ne prie pas. Plutôt, je serai quelqu'un qui prie. Seigneur, je suis désespéré à cet égard. Je m'offre à toi afin que je puisse avoir une vie de prière. Seigneur, garde-moi dans l'esprit de la prière. Si j'oublie ou je néglige cela, je sais que tu ne l'oublieras pas. Rappelle-moi encore et encore de prier. En français. Nous devons tous lui faire un vœu concernant notre vie de prière. Seigneur, je suis sérieux envers toi concernant ce sujet de la prière. Et la terre de témoigner que dorénavant j'aurai une vie de prière. Je ne serai pas quelqu'un qui ne prie pas. Plutôt, je serai quelqu'un qui prie. Seigneur, je suis désespéré à cet égard. Je m'offre à afin que je puisse avoir les saints sinophones. Nous prions que la session de l'après-midi, qu'on puisse se rassembler ensemble. Et nous espérons que nous pouvons amener toutes ces choses dans la pratique. Que l'année qui vient, que le Seigneur gagne beaucoup, beaucoup de petits groupes de prières. Pas simplement et pas seulement pour nos besoins, mais encore plus pour prier pour sa multiplication sur cette terre.